Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 48, Daf Mem Het. Bonne écoute et bon limoud.
Nous avons vu dans le chiot précédent qu'il y a une discussion à propos du raisonnement Oil, puisque. Par exemple, est-ce que l'on dit que puisque c'est possible qu'il va y avoir des invités qui vont venir, or j'ai le droit de cuire en plus grand et de cuisiner en plus grande quantité de ce que j'ai besoin, ou alors nous disons non, étant donné que les invités ne sont pas encore venus, or je ne dis pas le raisonnement de puisque et je n'ai pas le droit de cuisiner plus que la quantité de ce que j'ai besoin. Et la Gemara a voulu ramener une preuve. Elle a ramené le cas d'une personne qui a cuisiné du guide anaché, qui a fait cuire du guide anaché, du nerf sceptique d'une bête, dans du lait, un jour de fête. Et la Gemara a apporté une braïta qui nous dit qu'une telle personne est passible de 5 peines de flagellation. Premièrement, pour avoir fait cuire du nerf sciatique, alors qu'il n'en a pas besoin un jour de fête. Deuxièmement, pour l'avoir consommé. Troisièmement, pour avoir fait cuire du lait et de la viande, ensemble, chose qui est interdite. Et quatrièmement, pour avoir consommé ce lait et cette viande. Et la cinquième punition mentionnée par la braïta est une peine de flagellation pour l'interdit de Avara. Pour avoir allumé du feu un jour de fête alors qu'il n'en a pas besoin. Et la Gemara pose la question, si nous dirigeons le raisonnement de puisque, Ohil, alors à ce moment-là, nous pouvons dire que puisqu'il c'est possible qu'il va avoir besoin de ce feu pour d'autres besoins que de cuire ce nerf sceptique, alors il est permis de l'allumer. Alors d'ici nous avons une preuve apparemment que nous ne disons pas le raisonnement Ohil. Alors la Gemara répond non. À la place de Avara, il faut mentionner une autre punition. Et c'est cette cinquième punition que maintenant la Gemara recherche. Alors la Gemara a apporté plusieurs cas. Maintenant la Gemara pense peut-être que c'est à cause de Mouktse. Parce qu'il s'est servi de quelque chose qu'il n'avait pas prévu d'utiliser la veille du jour de fête. Et donc puisqu'il il s'est servi de quelque chose qu'il n'avait pas prévu d'utiliser, il est interdit de s'en servir. Et s'il s'en est servi, il a transgressé l'interdit de Mouktse. C'est pour cela qu'il est passible d'une peine de flagellation. Alors la Gemara veut repousser ce raisonnement en disant que l'interdit de Mouktse n'est pas un interdit de la Torah. Et la Gemara rapporte une preuve, le cas d'une personne qui a amené un agneau du pré pour l'abattre en tant qu'holocauste journalier. Or, lorsqu'on amène un agneau du pré, cet agneau, c'est sûr qu'il est Mouktse. On n'avait pas prévu de l'utiliser depuis la veille de la fête. Et la Gemara rapporte un verset qui nous dit qu'il est permis d'utiliser cet agneau. Et de ce verset, nous avons prouvé que l'interdit de Mouktse n'est pas un interdit de la Torah. Et c'est ce que la Gemara veut prouver. Alors, la Gemara rapporte un verset. Le début du verset nous dit « Vese achat minatzon minamataim mimashke Israël » et un agneau du menu bétail, 1/200, dans les herbages d'Israël. Et dans le chiot précédent, nous avons déjà expliqué qu'est-ce que nous apprenons du début du verset. Et maintenant, la Gemara continue et nous explique qu'est-ce que nous apprenons de la fin du verset. Et nous sommes daf mimchet amud aleph, première ligne. Min amataim, 1/200, de là nous apprenons mimutar shte meot shenishtairu babor, de ce qui reste de 200 parties dans le puits. Et Rashi nous explique que ici c'est sûr que nous parlons lorsque quelque chose d'interdit, de la nourriture interdite, s'est mélangé avec de la nourriture permise. Et nous ne parlons plus ici du sacrifice, mais nous parlons de ce qui accompagne le sacrifice, c'est-à-dire les libations. Et de là nous apprenons que si par exemple les libations en général sont faites de vin, si par exemple du vin interdit s'est mélangé avec du vin permis, alors s'il y a plus de 200 fois de vin permis que de vin interdit, il sera permis d'utiliser ce vin en tant que libation, car le vin interdit s'annule dans les 200 fois des 100 parties de vin permis. Et c'est ce que l'Agma nous dit, Mikan le Orla, de là nous apprenons que la Orla, c'est-à-dire, il y a une loi qui nous dit qu'un arbre, les 3 premières années après sa plantation, il s'appelle Orla. On n'a pas le droit de tirer profit de ses fruits. Et donc il en est de même d'une vigne. Et donc, les 3 premières années après la plantation d'une vigne, on n'a pas le droit de tirer profit de cette vigne. Et donc, on n'a pas le droit d'en boire le vin. Mais, si du vin d'Orla s'est mélangé avec 200 fois la quantité de vin d'Orla qu'il y avait, par exemple, s'il y avait 1 litre de vin d'Orla, ça s'est mélangé avec 200 litres de vin profane, non Orla, qu'on a le droit d'en tirer profit, chez Betela, Bematayim. Alors, ça s'annule dans les 200 fois. Ça, c'est ce que nous apprenons, Minamatayim, 1/200. Mimashke Israël, désherbage Israël, et de là nous apprenons, Minamutar le Israël. Il faut que les libations que l'on amène doivent être consommables par un Israël. Mikan Amrou, de là, ils ont dit, les sages, El Mevim le Sachin Minatevel. On ne peut amener les libations d'une récolte dont les dîmes n'ont pas été prélevées. Yachol, lo yavi minamukse. Alors j'aurais pu penser qu'on n'a pas le droit d'amener les libations d'un vin qu'il n'a pas été prévu de s'en servir pendant le jour de fête ou pendant Shabbat. Azamar, tu dois dire Matevel meyuchad sheisur gufo garano. De même qu'une récolte dont les dîmes n'ont pas été prélevées, c'est quelque chose de spécial, car c'est un interdit particulier qui lui a entraîné ceci. C'est-à-dire que le Tevel, c'est la récolte dont les dîmes n'ont pas été prélevées, c'est en elle-même, elle est interdite à la consommation. Afkol Shisur Gufo Garano, de là nous apprenons que ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser en tant que libation, c'est seulement des choses qui sont en elles-mêmes interdites à la consommation. Yatsa Mukse, donc ça vient nous exclure le Mukse, quelque chose que l'on n'avait pas prévu d'utiliser, par exemple du vin que l'on n'avait pas prévu d'utiliser. She'en Isur Gufo Garamlo, car ce n'est pas l'objet en lui-même qui a interdit l'utilisation ou la consommation, mais c'est une règle extérieure. Et donc de là nous apprenons qu'il est permis d'utiliser un agneau qu'on l'on a pris du pré, bien qu'il était moukté, pour un holocauste, pour l'holocauste journalier, un jour de fête. Et là, il sort d'avoir regamlo, mais le moukté, c'est quelque chose d'extérieur qui lui a entraîné cet interdit. Et maintenant, la Gemara veut apprendre de là. Puisque nous disons qu'il y a une différence entre l'interdit de moukté et l'interdit de tevel, d'une récolte dont les dîmes n'ont pas été prélevées, et que grâce à cette différence, la Gemara a prouvé qu'il est permis d'utiliser quelque chose de moukté pour sacrifice. Veille à marti sur moukté d'Oreta. Or, si tu me dis que l'interdit de moukté est un interdit d'après la Torah, et que c'est la Torah qui a interdit d'utiliser quelque chose qu'on n'avait pas prévu d'utiliser un jour de fête, mali sur goufo, mali sur davar acher, pourquoi faisons-nous une différence entre l'interdit, si c'est un interdit qui provient de l'ustensile en lui-même, par exemple une récolte dont les dîmes n'ont pas été prélevées, ou c'est interdit à cause d'une règle extérieure, parce que la Torah a dit de ne pas utiliser un tel ustensile, ou un tel aliment, ou une telle bête, ou du vin. Quelle différence y a-t-il? Étant donné que c'est interdit par la Torah, donc de là nous voulons apprendre que puisque la Gemara veut malgré tout faire une différence entre l'interdit de Moukté et l'interdit de Tevel, de là nous apprenons que l'interdit de Moukté n'est pas un interdit de la Torah. Et donc nous ne pouvons pas dire que la cinquième peine de flagellation qui a été citée dans le cas plus haut, c'est à cause de la raison qu'il a utilisé des bois de Moukté, Veod. Et de plus, Ha'at ou Dehamar, pourtant c'est toi qui as dit, Chinuk Melachot le Shabbat, il existe une séparation à propos des travaux le jour de Shabbat, c'est-à-dire si on a fait plusieurs travaux interdits le jour de Shabbat, on sera passible de plusieurs punitions. Ve'en chinuk melachot le yom tov, mais il n'y a pas de séparation entre les travaux un jour de fête, c'est-à-dire que même si on a fait plusieurs travaux interdits un jour de fête, on ne sera passible que d'une seule punition. Or, si nous disons que l'interdit de Moukté est un interdit d'après la Torah, il sera puni pour Moukté. Mais étant donné qu'il a déjà été puni pour avoir fait cuire un jour de fête quelque chose qu'il n'a pas besoin, donc c'est vrai qu'il y a deux travaux. Premièrement, pour avoir fait cuire quelque chose que l'on n'a pas besoin, et deuxièmement, pour avoir utilisé quelque chose qui est mouxé, qu'il n'avait pas prévu d'utiliser. Mais, étant donné qu'il y a une règle qui nous dit que même si on fait plusieurs travaux un jour de fête, on n'est pas passible que d'une seule punition, elle ne sera passible que d'une seule punition, et donc il n'y a pas ici une cinquième peine de flagellation. Et donc en fait, nous ne pouvons pas dire que la cinquième peine de flagellation est à cause de Moukté. Alors la Gemara répond, et la Apik Avara, alors en effet, il faut exclure la Avara, c'est-à-dire la première raison que nous avons dit, c'est-à-dire de faire d'allumer du feu parce qu'il n'en a pas besoin. Il faut dire qu'à la place, il a utilisé des bois d'un arbre qui a été utilisé pour un culte idolâtre. Et donc pas du bois Moukté, mais du bois qui est utilisé pour un culte idolâtre. Et il en a tiré profit, chose qui est interdite. Vazara me'acha, et la prévention, c'est-à-dire, la Torah nous prévient qu'il est interdit de faire une telle chose, nous l'apprenons d'ici. Ve'lo idbak be'adecha me'uma min acherem. Que rien de la cité maudite ne s'attache à ta main. Et donc de là, nous apprenons qu'il est interdit d'en tirer profit. Et donc, puisqu'il en a tiré profit, il est passé d'une peine de flagellation. Alors Ravacha, le fils de Rava, lui a dit, Abaye, mais il est nami, qu'il soit possible aussi d'une autre peine de flagellation, Mishum, à cause de l'interdit. Velota vitoeva, el betecha, et tu n'amèneras pas d'abomination dans ta maison. Et ici, lorsqu'il a amené quelque chose, des bois qui ont été utilisés pour un culte idolâtre, il amène une abomination chez soi, chose qui est interdite, et donc il devrait être passible normalement d'une sixième peine de flagellation. Agma répond, et la apikavara, va il a tseagdesh. Alors en effet, il faut exclure la avara, l'interdit, il faut dire que il n'est pas passible d'une peine de flagellation pour avoir allumé du feu alors qu'il n'en a pas besoin, mais dire à la place, va il a tseagdesh, dire à la place, car il a brûlé du bois qui était saint, chose qui est interdite. Et donc pas comme nous l'avons vu à cause de l'interdit de Moukté, et pas comme nous l'avons vu à cause de Atéachéra, des bois qui ont été utilisés à cause pour un culte idolâtre, mais la cinquième peine de flagellation, c'est parce qu'il a utilisé, il a brûlé des bois qui étaient saints. Vazara Mercha, et l'interdit, nous l'apprenons d'ici, Vacharem Tisrefun Baesh, et leurs bois qui ont été utilisés en tant que culte idolâtre, vous brûlerez dans le feu, l'autre à son ken, la Shem Elokechem. Mais vous ne ferez pas ainsi à Hachem votre Dieu. Et donc de là nous apprenons qu'il est interdit de brûler les choses saintes, et lui puisqu'il a brûlé ces bois qui étaient saints, il est passible d'une peine de flagellation. Et c'est ça la cinquième peine de flagellation. Amar Rami Bachama. Rami Bachama a dit, Hade Rafriza ve Rabba, cette discussion entre Rafriza et Rabba, c'est-à-dire est-ce qu'on dit le raisonnement de Hoil, puisque ou pas, Machlok et de Revelez et Rabbe Choua. C'est la discussion de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua dans la Mishnah qui ont discuté à propos d'une challah impure pendant un jour de fête. Comment faisons-nous pour prélever la challah d'une pâte impure un jour de fête? D'après Rabbi Eliezer, d'abord on doit faire cuire toute la pâte et seulement après cela en prélever la challah. Car si on prélève la challah avant, on n'aura pas le droit de la cuire car elle est impropre à la consommation étant donné qu'elle est impure. Et donc elle va en venir à devenir chametz. Et d'après Rabbi Yehoshua, du moment qu'on l'a prélevée, elle nous appartient plus, et donc, elle nous appartient plus, et on a le droit de la mettre de côté, même si elle va devenir chametz. Et la Gemara veut nous dire, Rabbi Eliezer pense, Amrina Noil, on dit un raisonnement de plus. Et donc, c'est pour cela que l'on a le droit de faire cuire toute la pâte, bien qu'une partie de cette pâte va être challah, mais on a le droit de faire cuire toute la pâte, car sur chaque morceau de pâte, on dit, peut-être que celui-là, je vais l'utiliser. C'est vrai que peut-être pas, peut-être que ce morceau de pâte, c'est celui qui va devenir challah, mais peut-être que je vais l'utiliser, alors on a le droit de faire cuire toute la pâte. Et Rabbi Yehoshua Saba, et Rabbi Yehoshua pense, lo amrinan hoil, on ne dit pas ce raisonnement de hoil, puisque, et donc on n'a pas le droit de faire cuire toute la pâte, car il y a une partie de la pâte qui est inutilisable, qui est challah, qu'on doit donner au Kohen et qui est impure, donc impropre à la consommation. Et donc, puisque cette challah est impropre à la consommation, on n'a pas le droit de la faire cuire. Et donc, puisque une partie de la pâte, on n'a pas le droit de faire cuire, alors on n'a pas le droit de faire cuire toute la pâte en disant peut-être celui-là je vais utiliser, peut-être celui-là je vais utiliser, peut-être celui-là je vais utiliser. Non, ce que l'on utilise, on le fait cuire, ce que l'on n'utilise pas, on ne le fait pas cuire. Amar Rav Papa, alors Rav Papa veut refuter cet enseignement de Rami Bachama. Vedilma Adkan Loka Amar Rabbi Eliezer Ratam. Peut-être que c'est seulement là-bas que Rabbi Eliezer a permis de faire cuire toute la pâte d'Amrina Noil et que l'on dit un raisonnement de puisque et la débeine de Kaile le Tanoura, car au moment où il fait rentrer chaque pain dans le four, kol chada vechada, chaziel et l'edide, chaque pain, il peut le consommer, il peut décider que celui-là le consomme, et l'autre sera chala. Avalacha, mais ici, à propos de la question de savoir, est-ce qu'il est permis de cuisiner plus que la quantité de ce qu'il a besoin, car peut-être des invités vont venir, de l'orin ou de chazé, et donc ça, c'est apte à être consommé par les invités, l'edide et l'orazé, mais pour lui-même, il ne pourra pas consommer une telle quantité de nourriture. Et donc c'est sûr que lui ne va pas consommer. Et c'est seulement que les invités, s'ils viennent, qui marchent un ami de l'envoyant. Peut-être que Rabbi Eliezer est d'accord qu'un cas pareil, on ne permet pas de cuisiner plus qu'il ne faut. De l'envoyant à Noël, car on ne dit pas raisonnement de puisque. C'est-à-dire que si c'est apte à être consommé par lui-même, alors on dit ce raisonnement de puisque. Mais si ce n'est pas apte à être consommé par lui-même, on ne dit pas ce raisonnement. Amar Rav Shisha Bere de Ravidi, et Rav Shisha Bere de Ravidi a dit, Bedil Ma'aloi, et peut-être que non. C'est-à-dire que peut-être que la discussion de Rav Lezer et Rav Yehoshua, ce n'est pas la discussion de Rav Frisa et Rabba. Askan Loka Amar Rav Yehoshua, que seulement à propos de la Chala, Rav Yehoshua a interdit de faire cuire toute la pâte, car il y a une partie qui n'a pas besoin, hatam, seulement là-bas, dans le cas de la pâte, de l'amrin en oil, que l'on ne dit pas le raisonnement de plus, et la dekachada de l'orazie, l'olé d'idée, velolochin, car il y a un morceau de pâte qui n'est pas à être consommé, ni par lui, ni par les invités. Et donc, comment allons-nous permettre de cuire ce morceau de pâte? C'est sûr que c'est interdit. C'est étant donné que ce ne va pas être consommé ni par lui, ni par les invités, ni par personne. Car c'est de la challah impure. On la donne au Kohen et c'est impropre à la consommation. Donc, pour quelle raison va-t-on permettre de la cuire? Et donc, peut-être que seulement là-bas, Rabbi Yoshua a interdit de cuire ce morceau de pain. Ah voilà, mais ici, dans le cas de cuisiner plus de la quantité que l'on a besoin pour les invités, des ras de miat leochim, car c'est apte à être consommé par les invités, donc c'est possible que les invités vont le manger s'ils viennent. Himach, inamrinanoïd, peut-être qu'en effet, on va dire sur des demandes de plus. C'est puisque peut-être les invités vont venir, alors on permet de cuisiner plus qu'il n'a besoin. Et donc nous avons vu deux façons d'expliquer la discussion entre Rabbi Eliezer et le choix, qui n'est pas la discussion entre Rafrizda et Rabat. Alors la Gemara rapporte maintenant, « Amwa Rabbanan, kamed Rabbi Yirmiyah et Rabbi Dira. » Les sages ont rapporté cet enseignement de Rami Bachama, que la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est la discussion entre Rafrizda et Rabat. Ils ont rapporté cet enseignement à Rabbi Yirmiyah et Rabbi Dira. Rabbi Yirmiyah kibla, Rabbi Yirmiyah a accepté cet enseignement de Rami Bachama, Rabbi Dira l'a kibla, Rabbi Dira ne l'a pas accepté. « Amal et Rabbi Yirmiyah et Rabbi Dira, alors Rabbi Yirmiyah lui a dit à Rabbi Dira, « Milta de kashyalan, vaatya kamashane » quelque chose qui nous est difficile depuis plusieurs années. De maïpigé Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quelle est la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Hashtam wa mishme de Gabra Rabba. Maintenant, on le dit au nom d'une personne importante, c'est-à-dire au nom de Rami Bachama. Et on explique que la discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer et la discussion entre Rafrizda et Rabba, c'est-à-dire est-ce que l'on dit le raisonnement de Hoïl ou pas? Veloni kabla. Et on n'acceptera pas une telle explication. Pourquoi toi, Rabbi Yoshua, n'acceptes-tu pas une telle explication? Amar, et alors Rabbi Yoshua lui a répondu, comment puis-je accepter une telle explication d'Etanina, car nous avons enseigné dans la Braïta. Amar le Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua lui a dit à Rabbi Eliezer, l'Izvarecha, d'après tes dires, Reo, vers Mishum Nota, c'est comme Melacha, il transgresse l'interdit, tu ne feras pas tout travaux. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua pose la question à Rabbi Eliezer, que étant donné qu'il cuit la chala qui est impure et qui est impropre à la consommation, étant donné qu'il a cuit, il transgresse l'interdit de faire des travaux le jour de fête. Et Rabbi Eliezer ne lui a pas répondu. Or, si c'était vrai que Rabbi Eliezer, la raison de Rabbi Eliezer est parce que l'on dit oil, puis, l'imalek, que Rabbi Eliezer lui répond, tam et didi, ma raison à moi, mishomoïd, c'est parce qu'on dit puis, et puisque c'est possible que chaque pain, il va le consommer, il va dire, ce pain-là, ce n'est pas celui que je vais dédier à la challah, alors il est permis de cuire chaque pain. Pourquoi Rabbi Eliezer ne lui a-t-il pas répondu une chose pareille? Amar les. Alors il lui a dit, et donc c'est pour cela que je n'accepte pas que la façon d'expliquer de Rami Bachama la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Azamar et Rabbi Yirmiyah lui a dit à Rabbi Zira, Abeli Taimich, mais d'après te dire, Hadetanina, ce que nous avons enseigné dans une Babraïta, Amar le Rabbi Eliezer lui a dit à Rabbi Yoshua, Lidvarecha, d'après te dire, Reo ver Mishum Bali, Reo Bali Maté, il transgresse l'interdit, on ne verra pas chez toi, et on ne trouvera pas chez toi du Hamet. Veshatike, et Rabbi Yoshua, sais-tu, et ne lui a pas répondu. Achinami, de l'or à derlé. Allons-nous dire qu'en effet, Rabbi Yoshua ne lui a pas répondu à sa question, car d'après Rabbi Yoshua, on prélève la challah, et on la laisse de côté, même si elle va devenir chamet. Donc, Rabbi Eliezer lui pose la question, si elle va devenir du chamet, il transgresse l'interdit d'avoir du chamet chez soi. Alors, allons-nous dire que Rabbi Yoshua, en effet, ne lui a pas répondu. Akama derlé bemadi. Pourtant, dans la Mishnah, nous voyons qu'il lui a oui répondu.
Signons le chiot. De Daf, Memchet, Amud Aleph. Nous sommes Daf, Memchet, Amud Aleph, 10 lignes avant la fin. Nous venons de voir que Rami Bachama a dit que la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua était la discussion entre Rabba et Rafrizda. Est-ce que l'on dit le raisonnement de Hoïl, puisque ou pas? Et la Gemara nous dit que Rabbi Zira n'a pas accepté cette explication, étant donné que dans la Braïta, Rabbi Yoshua a posé la question à Rabbi Eliezer en lui disant que d'après son opinion, il transgressait l'interdit de faire un travail un jour de fête, et Rabbi Eliezer ne lui a pas répondu. Et donc de là, nous avons. Or, si la raison de Rabbi Eliezer était parce qu'on dit le raisonnement de puisque, que Rabbi Eliezer lui réponde qu'on dit le raisonnement de puisque. Donc, puisqu'il ne lui a pas répondu, ça veut dire que ce n'est pas ça la raison de Rabbi Eliezer. Alors Rabbi Yirmiyah lui dit non, c'est pas vrai, car nous voyons que Rabbi Yoshua Rabbi Eliezer a posé une question à Rabbi Yoshua dans la Braïta, et Rabbi Yoshua ne lui a pas répondu dans la Braïta, mais lui a répondu dans la Mishnah. Et la question de Rabbi Eliezer était que le transgresseur interdit de balirei ou balimatzet, de ne pas trouver et de ne pas voir du chamet, c'est soi. Et dans la Mishnah, Rabbi Yoshua lui a répondu, dit Nan, lo zeo chamet chez Mouzarim alav, mishum balirei ou balimatzet. Ce n'est pas le chamet sur lequel la Torah nous a prévenu de ne pas en voir et de ne pas en trouver chez soi. Car du moment qu'on l'a prélevé, il ne nous appartient plus. Car étant donné que cette chala, on a prélevé la chala de la pâte, cela ne nous appartient plus. Et donc nous voyons, et la chate klebe braïta, nous voyons que Rabbi Yoshua s'est tué dans la braïta, il n'a pas répondu à Rabbi Eliezer, ou mais ader le bemanidin, mais il lui a répondu dans la Mishnah. Alors, à Hanami, ici aussi, à propos de la question que Rabbi Yoshua a posée à Rabbi Eliezer, il mourchatik le bemanidin, nous pouvons dire que Rabbi Eliezer s'est tué dans la Mishnah, mais ader le bemechil da'achrita, et il lui a répondu à un autre endroit. Et donc en fait, c'est tout à fait possible que la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua soit la discussion entre Rabba et Rav Chisda. Tania, nous avons enseigné dans une braïta. Rabbi Omer, Rabbi nous dit, Halakha ki Rabbi Eliezer, la loi est fixée suivant l'opinion de Rabbi Eliezer, que l'on cuit toute la pâte que l'on a fait, et de toute la pâte, on en prélève, une fois de tout ce qui a été cuit, on en prélèvera la chala des pains. Et Rabbi Trakamar et Rabbi Traka dit, Halakha ki Ben Betera, la loi est fixée suivant l'opinion de Ben Betera, qui nous dit que on prélèvera la chala lorsque c'est encore en pâte, pas après que ça a été cuit, et on la mettra dans de l'eau froide afin qu'elle ne monte pas. Cette pâte, on la mettra dans l'eau froide afin qu'elle ne monte pas. Et la Gemara demande maintenant, Vekama Ashiorissa, et quelle est la quantité d'une pâte que l'on a le droit de pétrir pendant Pessah, pour être sûr que l'on peut faire attention à ce que cette pâte ne monte pas et ne devienne pas chamet. Alors Rabbi Shmuel Benoche, Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, dit, Bechitin, Kabin. Lorsque c'est d'une pâte faite à base de farine de blé, une quantité de 2 caves. Ou béthéorine, et si c'est une pâte faite à base de farine d'orge, clochette kabin, une quantité de 3 caves. Le cave était une mesure de volume. Rabnatan Omer, Rabnatan dit, Mishum Rabliezer, au nom de Rabliezer, chilofat varim, c'est le contraire. Avec du blé, une quantité de 3 caves, et avec de l'orge, une quantité de 2 caves. Rabnatan demande, Va'atani Rabbi Shmuel benoshel Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Pourtant nous avons enseigné dans une braïta Rabbi Shmuel le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka dit Bechitin shloshet kabin ou besorin arba kabin, que dans du blé une quantité de 3 caves et dans de l'orge une quantité de 4 caves. Alors donc nous voyons apparemment une contradiction. La Gemara répond lo kasha, ce n'est pas une question. Ha bechasichta ha bemaliata. Ici nous parlons de blé de bonne qualité. Alors à ce moment-là, 2 caves. Et ici, si nous parlons du blé d'une mauvaise qualité, à ce moment-là, c'est une quantité de 3 caves. Car 3 caves de blé de mauvaise qualité, en farine, ça revient à une quantité de 2 caves de blé de bonne qualité. Azama Rafapa, Rafapa dit, Ishmaminia, de là nous apprenons, Grin, chite, chesirta, ni chite maliata, tfemi de girin, seare, chesirta, Misare maliata. Le blé de mauvaise qualité par rapport au blé de bonne qualité est de plus mauvais que l'orge de mauvaise qualité par rapport à l'orge de bonne qualité. Deiluatam, car là-bas, c'est-à-dire à propos du blé, tilta, il y a une différence de 1 tiers, c'est-à-dire pour 3 caves de blé de mauvaise qualité, nous avons 2 caves de blé d'une bonne qualité. Ve'acha, par contre, ici, à propos de l'orge, riva, c'est une différence que d'un quart. Pour 4 caves de blé pour 4 caves d'orge de mauvaise qualité, nous avons 3 caves d'orge de bonne qualité. Amarab, Rav a dit, lui, il a dit une autre quantité. Kava milugna, une quantité de 1 cave de lugna, le pisra vechen lechala, pour pesa, c'est-à-dire cette quantité, on a le droit de la pétrir. Jusqu'à cette quantité, on peut faire attention que la pâte ne devienne pas chamesse. Et c'est cette quantité-là, à partir de cette quantité-là aussi, que lorsqu'on la pétrit, on est passible d'en prélever la chala, on est passible de prélever la chala de la pâte. La Gemara demande alors Vertnan, pourtant nous avons enseigné dans la Mishnah.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante d'Af Memchet Amud Bet, Chamishat Rivaim Kemach, qu'à partir d'une quantité de 5 quarts de log de farine, on est passible d'en prélever la challah et donc pas d'un kav de lugna, et encore un petit peu. Chayavim bechala, à partir de ces quantités, on est obligé d'en prélever la challah. Alors la Gemara répond, Arika Amar, c'est ainsi que Rava a dit, kava melugna, un kav de lugna, nami aishiura kae, c'est aussi cette quantité de 5 quarts de log et encore un petit peu. Hamar Rabbi Yosef a dit, Hale nashedidan, nos femmes, naug le mipa kepiza kepiza le pisra, ont l'habitude de tamiser une quantité de 1 kapiza par kapiza pour Pessar lorsqu'elle pétrit la pâte pendant Pessar pour pas que ça ne vienne à monter, c'est-à-dire une plus petite quantité. Amar le Abaye, alors Abaye lui a dit, Maedatra, quelle est ton intention lorsque tu fais une chose pareille? Le Chumra, c'est-à-dire il faut être plus sévère, nous dire qu'on fait plus attention. Alors Chumra date les dekulaou. C'est une sévérité qui entraîne un allègement de la loi. Pourquoi? Dès qu'un mavkala, michala, lorsque l'on pétrit une telle quantité de farine, alors à ce moment, on n'est pas obligé d'en prélever la chala. Amar, et alors il lui a répondu, Rabbi Yosef, de'avdan ki Rabbi Eliezer. Nous, on se conduit comme Rabbi Eliezer, dit Nan, car nous avons signé dans une Mishnah. Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer dit, harodé, celui qui sort les pains du four, venoten les salles, et il les met dans le panier, Hassal Metzafan, le panier les associe. C'est-à-dire, c'est vrai que si chaque pain n'avait pas une quantité suffisante pour se rendre passible de challah, mais si dans tout le panier, il y a suffisamment de pains qui, en tout, sont une quantité suffisante pour se rendre passible de challah, alors à ce moment-là, on est obligé d'en prélever la challah, la challah. Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, et Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, halakha ki Rabbi Eliezer, la loi est fixée comme Rabbi Eliezer. Donc c'est vrai que lorsque l'on pétrit la pâte, il n'y a pas de quantité suffisante, mais lorsque l'on peint, ou lorsque l'on sort les pains du four, on les met tous dans le même panier, et donc lorsqu'on les sort du four, à ce moment-là, on en prélèvera la chala. Amar, alors il lui a posé la question à Abaye, et va être maral, et pourtant il était dit sur une chose pareille, Amar Rabbi Yehuda ben Levi, Rabbi Yehuda ben Levi a dit, l'oshanou et la kikarot, cette loi n'a été dit, c'est-à-dire la loi qui nous dit que le panier les associe, que à propos des pains, chez le Babel de Babel, chez Noshrot Zomizo, qui, lorsque on les met toutes dans le même panier, elles se rattachent l'une à l'autre, car elles sont épaisses. Avant avec Kechin, mais les pains qui sont plats, comme par exemple les matzot, l'eau, non, étant donné qu'elles ne se collent pas l'une à l'autre, elles sont complètement séparées. Donc comment, toi, peux-tu dire, Rabbi Yosef, que tu suis l'opinion de Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer ne parle pas de matzot. La Gemara répond, Haït Maral, et pourtant il a dit une chose pareille, Amar Rebchanina, Rebchanina a dit, Avulo Kechin, même des pains qui sont secs et qui ne se collent pas l'un à l'autre. Et donc c'est comme cela que Rabbi Yosef se conduit. Ben, Rabbi Yirmiya pose la question, Tavla, Shen, la Basbazim, une plaque qui n'a pas de côté. C'est-à-dire, par exemple, une plaque complètement plate. Mao, qu'en est-il? Si on dépose les pains dans cette pâte-là, alors est-ce que ça s'associe ou pas? Tor Kelibainan, est-ce que nous avons besoin de l'intérieur d'un ustensile, via les cas, et ici il n'y a pas d'intérieur, étant donné que cette plaque n'a pas de paroi, Odilma avir kelibanan, ou alors est-ce que nous disons que c'est l'air de l'ustensile qui associe? Et donc, ici il y a, vehaïka, et ici il y a, on les met tous à l'intérieur du même ustensile, c'est vrai que c'est une plaque, mais c'est tous sur le même ustensile, et donc l'air de l'ustensile va les associer, et peut-être que c'est passible de khala. L'agmar dit, teko, cela reste un doute. Tania, nous avons enseigné dans une bretta. Rabbi Eliezer nous dit, Asal Metzafan, le panier associe les pains pour les rendre passibles de challah. Rabbi Yoshua nous dit, Tano Metzafan, ce n'est pas le panier, mais c'est le four. Si dans le four il y a suffisamment de pain pour se rendre passible de challah, on est obligé d'en prélever la challah. Sinon, non. Rabban Shimon Ben Gamliel nous dit, Kikarot Shel Babel, Shenoshrod Zomizo Metzafot. Les pains que l'on fait à Babel, et qui sont des pains épais, et que lorsqu'on les dépose l'un sur l'autre, alors à ce moment-là, lorsqu'elles sont encore chaudes, elles se collent l'un à l'autre. Alors à ce moment-là, elles s'associent pour se rendre passibles de challah. La Mishnah nous dit, Rabban Gamliel nous dit, Shalosh Nashim Lashot Kachat, trois femmes ont le droit de pétrir en même temps, chacun son pain, Veofot Betano Echad, et de faire cuire dans un même four, même si ce four, dans ce four, on ne peut faire rentrer qu'un seul pain l'un après l'autre, Zou Acharzo, donc elles ont le droit de faire rentrer leur pain l'une après l'autre. Et bien que pendant que la première va cuire son pain, la seconde et la troisième vont attendre, on ne craint pas que la pâte va devenir chametz. Bechachamim omrim, et les sages nous disent, Shalosh nashki nashim oskot bebatsek kiachat. Trois femmes ont le droit d'être occupées à la pâte en même temps. Comment cela? Achat lacha, une pétrie, veachat orechet, l'autre forme, veachat ofa, et la troisième cuit. Mais on n'a pas le droit que les trois pétrissent en même temps, et que l'une attend l'autre pour faire cuire. Mais il doit y avoir toujours l'une après l'autre. Et la Gemara va expliquer comment cela. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous dit, Lo kol anashim, ve lo kol haetim, ve lo kol atanurim shavim. Ni toutes les femmes, ni tous les bois que l'on utilise pour faire chauffer le four, ni tous les fours ne sont égaux. Il y en a qui font plus attention, il y en a qui font moins attention. Il y a des bois qui réchauffent plus, il y a des bois qui réchauffent moins. Il y a des fours qui réchauffent plus, il y a des fours qui réchauffent moins. Il faut faire attention, ça dépend. Zéaklad, ceci est la règle. Ta part, si la pâte commence à monter, tiltoche betonen, on devra immédiatement la pétrir avec de l'eau froide. Tanurabanan, l'agman oui, Tanurabanan, nos sages nous enseignent. Ici, nous allons expliquer l'opinion des sages. L'achat, pendant que la première commence à pétrir. Himekat est faite, à partir du moment où elle commence à former, vechaverta l'achat, alors son ami commence à pétrir, tartea à sa place. Mekat est faite, si son ami commence à former, hiofa, elle, à ce moment-là, elle commence à faire cuire son pain, c'est-à-dire la première fait cuire son pain, vechaverta, la deuxième, mekat est faite, elle forme, comme nous venons de dire, tartea à sa place, vechlichit l'achat, et la troisième commence à pétrir sa pâte. Ofa, à partir du moment où la seconde fait cuire son pain, Hilacha, alors la première qui a déjà fait sortir le pain du four, alors elle recommence à pétrir, Vechaverta et la deuxième, Ofa, elle fait cuire son pain, Tartea à sa place, Vechlichit et la troisième, Mekatefet, à ce moment-là, elle commence à former, Vechozer et Tralila, et ainsi le tour continue, c'est-à-dire, il y en a toujours une qui pétrit, la seconde qui forme, et la troisième qui cuit. Et ainsi de suite. Dès que la troisième a fini de cuire, la seconde qui était en train de former, fait rentrer le pain dans le four cuit, et la première, à ce moment-là, elle forme, et la troisième qui vient de finir de cuire, recommence à pétrir. Kolzman shoskot bobatzek, tout le temps où elles sont occupées avec la pâte, et no bali dechimut. Cela n'en vient pas à monter. La Gemara apporte maintenant un extrait de la Mishnah. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, lo kol anashim bechulet, ni toutes les femmes, ni tous les bois, ni tous les fours ne sont égaux, tout dépend des cas. Tanya, nous avons dit dans une boîte, Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva a dit, Danti lifne Rabban Gamliel, j'ai posé les questions devant Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a dit que trois femmes ont le droit de pétrir en même temps et de faire entrer le pain dans le four l'une après l'autre. Yela Medenu Rabbenu, que notre maître nous enseigne, Benashim Zrizot ou Benashim Shen Zrizot. Est-ce que nous parlons de femmes zélées ou de femmes qui ne sont pas zélées? Betim lachim ou betim yeveshim. Est-ce que nous parlons ici de bois qui sont humides et qui chauffent pas très bien, ou de bois qui sont secs et qui chauffent très bien? Betanu cham ou betanu tsonen. Est-ce que nous parlons que le four est chaud et qu'il cuit donc rapidement, ou que le four est encore tiède? Amarli, alors il m'a répondu, Rabban Gamliel, en lecha elama sheshanu chachamim, tu n'as dans tes mains que ce que nos sages nous ont enseigné, zeaka, ceci est la règle. Tafar, si cela a monté, tiltosh betsonen. À ce moment-là, on devra immédiatement la recouvrir d'eau froide et la pétrir avec de l'eau froide afin que cela ne monte pas. La Mishnah rapporte maintenant, va nous parler du cas de Seor, du levain. Alors, la Mishnah nous dit, Seor, Yisaref, le levain, on devra le brûler. Veorlo, et celui qui en consomme, Pato, il est exempt de punition. Et nous parlons ici de levain avant qu'il ne soit devenu Khamet. Sidouk, à partir du moment où le levain a commencé à se craqueler, il s'arrête. On devra le brûler. Veorlo chayav karet, et celui qui le consomme est passible d'une peine de retranchement car c'est déjà du chamet. La Mishnah demande Ezeoseo, qu'est-ce qui est considéré comme étant du levain avant qu'il ne devienne chamet? Kekarne chagavim, tant qu'il n'est craquelé que comme des karne chagavim, les antennes des sauterelles, c'est-à-dire une petite fente par-ci, une petite fente par-là. Alors à ce moment-là, tant que c'est une petite fente par-ci, une petite fente par-là, ce n'est pas grave, c'est pas considéré comme étant du levain qui est déjà devenu chamet, et donc on n'est pas passible de peine de retranchement si on consomme. Si donc, mais à partir du moment où il se craquelle, c'est-à-dire chez Nitarvus, Datim, Zébézé, que les fentes commencent à se mélanger l'une dans l'autre, alors à ce moment-là, c'est considéré comme étant du levain qui est devenu chamet, et celui qui en consomme est passible de peine de retranchement. Livré Rabbi Yehuda, selon la parole de Rabbi Yehuda. Vechachamim omrim, et les sages nous disent, Zévazé, celui-ci et celui-là, c'est-à-dire qu'il y ait des petites fentes ou qu'il y ait des fentes qui se mélangent l'une dans l'autre, alors l'ochayav vekaret, celui qui en consomme est passible d'une peine de retranchement, car dans les deux cas c'est considéré comme étant du chamet. Vezeoseo, alors qu'est-ce qui est considéré le levain que l'on n'est pas passible de peine de retranchement si on en consomme avant qu'il ne devienne chamet? Kol chirsifu panav, du moment qu'il a commencé à blêmir, ka'adam shamdu sarotav, comme un homme dont les cheveux se sont dressés sur la tête. C'est-à-dire, c'est une façon de s'exprimer. Lorsqu'on dit que lorsqu'une personne a peur, ses cheveux se dressent sur sa tête. Alors en fait, et lorsqu'il a peur aussi, il commence à blêmir. Alors à partir du moment où le Seor blêmit, comme lorsqu'un homme blêmit lorsqu'il a peur, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, c'est appelé du Seor, mais on n'est pas passible de peine de retranchement si on en consort. Tanou Rabbanan, nos sages nous enseignent. Et Zéou Seor, qu'est-ce qui est considéré comme étant du Seor, que l'on n'est pas passible de peine de retranchement si on en consomme, Kol Shirsufu Panav, Kandam Shandu Seorotav. Tout ce que dans le cas où il a blémi, le vin a blémi, comme un homme dont les cheveux se sont dressés sur la tête, qui blémit à cause de la peur. Sidouk, qu'est-ce qui est appelé Sidouk, c'est-à-dire qui se craquelle et qui devient Hamet, Kekarne Chagamim, à partir du moment où il y a des petites fentes, une par-ci, une par-là, comme les antennes des sauterelles. Divrei Ramir, sont là la parole de Ramir. Et les sages nous disent, et Zéou Seor, qu'est-ce qui est considéré du levain que l'on n'est pas passible de peine de retranchement si on consomme, Kekarne Chagamim, lorsqu'il y a comme les antennes d'une sauterelle, une fente par-ci, une fente par-là. Sidouk, qu'est-ce qui est considéré du levain cracolé et que l'on est passible d'une peine de retranchement si on en consomme, Chenitarbus, Dakav, Zébézé, si les fentes se sont mélangées l'une dans l'autre. Et celui-ci et celui-là, c'est-à-dire qu'il y ait des fentes une par-ci, une par-là, ou qu'il y ait plusieurs fentes qui se mélangent l'une dans l'autre, alors, Chlochaev Kalet, celui qui le consomme, est passible d'une peine de retranchement. Alors, Agmara pose la question immédiatement, Vernantnan, pourtant nous avons enseigné dans la Mishnah, Seor Yisaref, le levain, il devrait être brûlé, Vachlopato, mais celui qui en consomme, est passible de peine de retranchement. D'ivrei Rabbi Yehuda, sont là les paroles de Rabbi Yehuda. Or, les sages mentionnés dans la Braïta, c'est Rabbi Yehuda, car eux, ils disent que qu'est-ce que le levain, que l'on est exempt d'une peine de retranchement si on consomme, qui carnet hagavim, comme les antennes d'une sauterelle, une fente par-ci, une fente par-là. Alors, pourquoi ici, nous disons que dans les deux cas, on est passible d'une peine de retranchement? Lagma répond, Ima, il faut dire que la dernière phrase de la Waïta, les Reb Meir, elle se rapporte sur Reb Meir. C'est-à-dire que d'après Reb Meir, le Seor, que l'on n'est pas passible d'une peine de retranchement, c'est lorsque le levain a blémi. Mais à partir du moment où il commence à se craqueler, il n'y a pas de différence si des petites fentes ou des grandes fentes. Et donc c'est pour cela que, d'après Reb Meir, Zévazé à Orlo, dans les deux cas, si on le consomme, Chayav Karet, on est passible d'une peine de retranchement. Amar Rava, Rava a dit, Maïta Amad Reb Meir, quelle est la raison de Reb Meir? En lechakol sedek va sedek milemala, il n'y a pas de fente en haut, aucune fente en haut, chez le kamazdaki milemala, qui n'a pas plusieurs fentes en dessous. Et donc si en haut il y a une fente, en dessous il y a plusieurs fentes. Et donc c'est vrai que si en haut ce n'est fendu qu'une partie, une par là, mais en bas c'est fendu beaucoup plus, et donc c'est obligé que les fentes se sont mélangées l'une dans l'autre, et donc ça revient au deuxième cas cité dans Mishnah, que les fentes se sont mélangées l'une dans l'autre, et ça d'après tout le monde, c'est déjà du Hametz. Et c'est pour cela que Reb Meir lui interdit à la consommation et rend passible de peine de retranchement, même que Karnei Chagavim, lorsque c'est une fente par-ci, une fente par-là. Et nous avons fini ici le shiur de Daf Memchet.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.